l'heure philo. Philo jusqu'à 21h, Francis Wolff est ce soir notre invité, professeur émérite à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Il en a dirigé le département philo des années durant. Citer ses ouvrages prendrait, à mon avis, la moitié de l'émission, aussi ne citerai-je que celui-ci, « Le monde à la première personne ». Il s'agit d'un livre d'entretien avec André Comte-Sponville, son ami André Comte-Sponville. Toutefois, j'ajouterai que Francis Wolff y évoque ses maîtres, sa formation, mais aussi la métaphysique, l'humanisme ou la musique. Henri-Marc Mutel est à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka a choisi les disques et Henri Bérec est aux manettes.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Francis Wolff, bonsoir.
Bonsoir Patricia Martin.
Nous sommes ravis et honorés de vous recevoir. Comment faut-il entendre le titre de ces entretiens avec André Comte-Sponville, « Le monde à la première personne ».
Alors, c'est un livre d'entretien, mais asymétrique, si je puis dire, puisque c'est André Comte-Sponville qui m'interroge sur ma vision du monde. Donc, vous avez déjà une partie de la réponse. J'ai écrit un livre qui a été important pour moi, qui s'appelle « Dire le monde », et qui donne un peu les racines de l'ensemble de ma philosophie, mais j'ai tenu à en présenter l'ensemble d'une façon un peu synthétique, et j'ai trouvé que le meilleur moyen, c'était de le faire sous la forme d'un entretien avec quelqu'un qui connaît très bien l'ensemble de mon travail, qui est André Comte-Sponville, vous l'avez dit, c'est un vieil ami, et ce qui me permettait, passage à la première personne, me permettait aussi d'évoquer des souvenirs qui me sont chers, non seulement de ma formation, mais aussi de mon histoire familiale qui est singulière.
Mais il vous a un petit peu poussé à vous dévoiler, parce qu'on sent bien que vous n'aimez pas trop parler de vous. Modestie et optimisme, c'est ce qui vous caractérise. Ça vient à la toute fin du livre. Mais la modestie, je le crois volontiers.
En tout cas, je n'ai jamais estimé que parler de moi intéresse qui que ce soit d'autre que mes proches. En revanche, là, j'ai trouvé que ça pouvait incarner des concepts, une argumentation, disons une philosophie qui était peut-être jusqu'à présent un peu trop cantonnée aux concepts.
Mais ça éclaire probablement beaucoup le lecteur. Enfin, c'est évident.
Oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit que présenter les choses comme ça à la première personne rend non seulement l'ensemble de mon travail vivant, mais surtout montre l'ensemble sous un jour nouveau, en tout cas complet, puisque en fait, il se trouve que j'ai eu le sentiment, à partir d'un certain moment, d'avoir écrit différents livres qui, pour moi, ne faisaient qu'un dans ma tête, mais qui pour mes publics, je dis mes publics ou mes lecteurs, étaient au fond très hétérogènes. J'ai écrit sur la musique, j'ai écrit sur l'amour, j'ai écrit sur le langage. Vous n'avez pas cité tous ces livres et je ne le ferai pas non plus. Mais enfin, j'ai traité de sujets très hétérogènes, mais pour moi, il y avait une forte unité là-dedans et j'ai tenu à le montrer dans ce livre.
Alors Francis Wolff, vous le savez, puisque je crois savoir que vous êtes un auditeur, en tout cas de temps à autre de l'émission. Nous vous présentons en quelque sorte des archives, des sons qui peuvent aussi éclairer une partie de votre pensée. Monique Chevillier-Gendreau, elle est juriste, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris-Diderot. Et dans l'extrait d'interview que nous allons écouter, elle conseille la lecture d'un livre que vous connaissez certainement, de Miguel Abensur, « L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin ».
Il explique très bien la place politique de l'utopie. Il dit même que l'utopie est un moyen de résister à la catastrophe. Vous savez que Benjamin lisait l'histoire comme la catastrophe. Et il parlait des sauts de tigre que peut faire le peuple pour tout d'un coup changer le cours de l'histoire, interrompre le cours de l'histoire lorsque le cours de l'histoire va à la catastrophe. Eh bien, Abensur dit de l'utopie que c'est là que se réfugie, c'est en elle que se réfugie la résistance de l'humain. Alors, ce n'est pas l'utopie comme un autre lieu que l'on rêve et qui est impossible, on sait qu'il n'existe pas, voilà, on rêve tout d'un coup d'un autre lieu. C'est pas ça, l'utopie, telle que je la revendique à propos de mes analyses. L'utopie, c'est un nouveau rapport d'altérité, un rapport d'altérité universelle. Finalement, le lieu inconnu que nous cherchons, c'est l'autre. Et c'est ça qui est tellement méconnu actuellement. On veut ou que l'autre soit identique à soi, ou alors il est l'ennemi. il n'y a pas de place pour un autre qui soit vraiment un autre, c'est-à-dire complètement différent, mais qui ne soit pas un ennemi, qu'on prenne en considération comme tel.
L'autre, ni ennemi, ni différent, ni semblable, si on s'en approche, on se dit que les préventions tombent, que la xénophobie même peut-être s'estompe. Au sujet de l'utopie, qui est une forme de résistance, vous dites que nous sommes fatigués des utopies. Vous n'êtes pas d'accord, enfin vous êtes d'accord avec ce que vous avancez, mais je veux dire, vous le regrettez.
Alors nous sommes fatigués des utopies parce que nous en avons soupé. Le XXe siècle nous a présenté des utopies qui, qu'on le veuille ou non, ont mené au totalitarisme, c'est-à-dire l'idée soit d'une société absolument pure, et ça a été l'utopie raciale, soit d'une utopie où l'utopie du commun, c'est-à-dire ça a été l'utopie totalitaire communiste. C'est-à-dire pour moi, ces deux utopies, c'est l'utopie de l'avoir d'un côté, rien ne doit nous distinguer du point de vue de l'avoir, et l'utopie de l'être, rien ne doit nous distinguer du point de vue de l'être. Nous devons être tous identiques, semblables. Alors, ces deux utopies nous ont fait oublier qu'il peut y avoir des utopies positives. J'ai donc écrit un livre, moi aussi, qui s'appelle « Trois utopies contemporaines ». Je me pose la question, quel sens peut y avoir aujourd'hui à parler d'utopie lorsque nous ne croyons plus au salut commun ? Nous ne croyons plus au salut, chacun le sait, mais nous ne croyons plus non plus au commun. Eh bien, l'idée, c'est que peut-il y avoir comme utopie à l'ère de l'individu, puisque nous sommes au fond à l'ère de l'individu? Alors j'en distingue au départ deux. L'utopie post-humaniste, dans laquelle certains rêvent que à une future humanité post-humaine qui permettrait, pourquoi pas, d'échapper à l'animalité, c'est-à-dire à notre aspect biologique, à la maladie, voire, pourquoi pas, à la mort. Alors évidemment, je suis tout à fait pour l'immortalité, mais pour l'immortalité de l'humanité, et non pas pour l'immortalité individuelle, que je trouve une utopie dangereuse pour d'autres raisons. Et alors, par opposition à ça, on a une autre utopie qui est parfaitement symétrique de la première, non pas dépasser l'humain, mais être en deçà de l'humain. C'est l'utopie que j'appelle animaliste, qui veut qu'il n'y ait plus véritablement de frontières entre les animaux et les hommes, dans lesquelles nous pourrions faire une seule communauté, la communauté de tous les êtres sentants, de tous les êtres sensibles. Alors, je rejette ces deux utopies parce que je trouve qu'elles sont deux formes de dépassement et de négation de l'humanisme. Et je me dis, à l'heure de l'individu, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme une utopie positive et humaniste? Et ma réponse, c'est le cosmopolitisme. C'est-à-dire, c'est une utopie, bien entendu. Je ne rêve pas de l'abolition demain des frontières. Mais on voit bien que la construction européenne, par exemple, ça a été au départ une utopie il y a 50 ans et qui nous a permis, en effet, quelques décennies de paix et de prospérité. Et au fond, maintenant, si on critique beaucoup l'Europe de Schengen, on ne peut pas dire qu'elle ne nous ait apporté que des inconvénients. Bien au contraire, cette libre circulation, enfin des personnes, puisque il y avait jusqu'à présent une libre circulation des marchandises, simplement, ou des monnaies, eh bien, cette libre circulation des personnes, on peut en rêver pour l'humanité entière. Et j'ajoute simplement que pour moi, l'utopie cosmopolitique, ce n'est que l'envers de ma détestation de toute forme de nationalisme. C'est-à-dire, mon détestation du nationalisme, j'y vois deux sources, si vous voulez bien. Je le dirai d'un mot, mon histoire familiale et puis mes positions philosophiques que peut-être sur lesquelles on reviendra. Peut-être.
Oui, on va revenir aussi sur votre histoire familiale. À mon avis, Louis Althusser, vous connaissez.
En effet, ça a été un de mes maîtres.
Le diagnostic de mort de la philosophie est un diagnostic, mais est le diagnostic de quelque chose qui ne concerne pas tellement la philosophie, mais qui concerne la disparition de certaines formes d'existence de la philosophie, mais qui en même temps signifie que la philosophie persiste et dure dans des formes extrêmement stables et extrêmement fortes. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, nous n'avons plus de grands systèmes, comme il y en avait au XVIIe siècle, même au XIXe, même du temps de Husserl, même du temps de Sartre et de Merleau-Ponty. À ce titre, certaines formes de philosophie, disons, la philosophie des systèmes, ou en tout cas des systèmes visibles, ou des systèmes philosophico-littéraires, c'est-à-dire des systèmes qui se présentaient eux-mêmes sur le devant de la scène, avec la prétention de tout expliquer. Cette philosophie, effectivement, est peut-être en voie de disparition, bien que ce ne soit pas entièrement sûr, bien qu'elle ait encore de belles ressources devant elle.
Qu'est-ce que la philosophie, Francis Wolff ? Dans ce livre d'entretien, donc avec André Comte-Sponville, vous dites que vous adoriez faire cours à vos élèves autour de ce thème.
Oui, c'est un thème qui, pour un jeune professeur, est extrêmement exaltant. On est face à des élèves, à des jeunes gens pour qui ce mot est un peu mystérieux. Montrer ce que signifie la naissance de la philosophie dans la pensée grecque, comment la philosophie naît en se dégageant du mythe, comment elle est contemporaine au fond de la démocratie, alors comment elle suppose la naissance de l'esprit critique dans une certaine société, tout cela était en effet exaltant. Bon, je dois dire que c'est une question qu'on se pose quand on est jeune ou quand on est jeune professeur, et peut-être que on cesse de la poser, de se la poser quand on fait de la philosophie. Et je crois avoir peut-être atteint l'âge où je peux me la reposer.
Mais vous avez toujours votre esprit d'enfant, puisque vous dites qu'il faut à la fois de la rigueur d'un côté et un esprit d'enfant pour interroger le monde. Au fond.
Oui, c'est une des définitions que je donne en effet de la philosophie. Je dis que la philosophie, c'est poser des questions d'enfant avec une technique d'adulte. Et je dis même parfois en plaisantant que, au fond, c'est un peu la métaphore du castrat. Le castrat, c'est le chanteur qui a gardé sa magnifique voix d'enfant, mais avec une technique de vocalise, d'interprétation d'adulte. Eh bien, au fond, c'est cela, l'enfant pose des questions sans cesse, qu'est-ce que, et puis ça, et pourquoi. Bon, et puis il se lasse parce que on l'envoie se coucher. Et au fond, progressivement, l'adulte a oublié. Mais si on revient à nos questions d'enfant, eh bien, avec toute la technique d'argumentation, de conceptualisation, de déduction, d'esprit critique de l'adulte, eh bien, on a quelque chose comme une définition possible de la philosophie. C'est aller jusqu'au bout des qu'est-ce que et aller jusqu'au bout des pourquoi.
Dream a little dream of me, c'est Ella et Louis sur France Inter, ça date de 1957.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz,
fading, but I linger on, dear. still graving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming
till something's fine. You keep dreaming,
gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me,
you'll
dream a little dream of me.
Que du bonheur. D'où vous vient, Francis Wolff, votre passion pour la musique et pour le jazz en particulier?
Alors, ma passion pour la musique, je ne sais pas, elle remonte sans doute à mon enfance. Je suis entré en musique sans le savoir, sans doute en commençant à tapoter sur un piano à l'âge de 8 ans.
Et par la suite, vous aviez vous-même un piano que vous avez d'ailleurs emporté, je crois, au Brésil quand
Mais
vous êtes allé y vivre.
Absolument, vous êtes bien renseigné. Enfin, en tout cas, c'est ce que je raconte dans le livre que vous avez lu.
Exactement.
Ce piano m'a suivi et puis il est toujours chez moi. Mais hélas, j'en joue de moins en moins, c'est le moins qu'on puisse
dire.
Mais
pourquoi ?
Eh bien, voilà, mes doigts ne m'obéissent plus, du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que
Il faut les rééduquer.
Mais vous avez tout à fait raison.
Mais enfin.
C'est ce que je me dis tous les 31 décembre.
Et il paraît que vous, enfin, j'ai lu aussi que vous organisiez des concerts de jazz à Normale Sup.
Oui, en effet, c'était une époque où j'étais très jazz. J'ai, en fait, découvert le jazz plutôt tard. Enfin, je veux dire, j'avais dans mon adolescence.
Mais c'était un peu une musique marginale, le jazz.
C'était
au
une musique marginale, ce qui n'est plus du tout le cas, puisque maintenant elle est totalement intégrée. Elle est même plutôt passée côté classique, si je puis dire. Son évolution, d'ailleurs, est très significative des arts populaires qui deviennent de plus en plus savants et qui sont de plus en plus réservés. C'est une autre histoire. J'ai découvert avec un transistor dans mon lit.
Vous écoutiez Franck Thénault et Daniel Filippetti.
Exactement.
C'était sur une radio concurrente, mais on peut le dire quand même.
Bien sûr, mais que voulez-vous. À l'époque, c'était quoi? Peut-être Paris Inter ou France 1, je ne sais plus.
Je ne sais pas lequel était le nom de France Inter à ce moment-là, j'en sais rien.
Mais alors, c'était une émission qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz, avec un indicatif très célèbre qui était d'Art Blackie et les Jazz Messengers. C'était, voilà, j'écoutais ça dans mon lit en cachette de mes parents. Et puis ça a été le choc à Jean Lépin de découvrir un extraordinaire concert de Miles Davis, à une époque d'ailleurs où il était en train d'abandonner le jazz pour passer à une musique, comme on dit, plus binaire, c'est-à-dire un peu plus pop, disons, voilà. Et là, j'ai eu un choc à la fois esthétique, musical, presque idéologique, bon, voilà. Et puis, le jazz m'a accompagné, mais je dirais que maintenant, c'est pour moi une musique décidément unique. Nocturne, voilà.
C'est vrai, vous avez raison, ça va bien avec la nuit.
Mais oui, on écoute Bach le matin, mais et la Fitzgerald à 23h. Après le jazz, je ne peux plus écouter que du flamenco, si vous voulez. Là, c'est à partir de minuit.
Et le flamenco, pourquoi?
Ah bah le flamenco, moi c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Enfin, le flamenco, pas la... essentiellement ce qu'on appelle le chant profond je vais à certains festivals de musique et là il y a une émotion qui est unique et qui peut-être me donne aujourd'hui l'équivalent de l'émotion que j'éprouvais pour les grandes chanteuses de jazz dont on vient d'écouter la plus grande.
Après Louis Althusser, Jacques Derrida.
Dans l'improvisation, il y a, et surtout dans le cas du jazz, il y a des règles de la répétition et de l'événement. Et qu'il faut que l'œuvre, justement, l'œuvre improvisée, ait une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient. Dans mon expérience, dans l'enseignement et dans les conférences, j'improvise peu finalement, j'écris beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait de pure improvisation. C'est-à-dire, quand on improvise délibérément, en quelque sorte, on fait jouer ou on laisse jouer des schèmes déjà préparés ou virtuellement prêts, n'est-ce pas ? Mais il y a des cas où quelque chose arrive, vous arrive alors que vous parlez, et en quelque sorte, mettant votre maîtrise en défaut ou en déroute. Et là, je ne peux pas dire qu'on improvise, à ce moment-là, ça arrive. On s'entend dire des choses, on se met à penser quelque chose à quoi on n'était pas soi-même préparé, et à ce moment-là, il s'agit d'un événement que l'improvisation a accueilli, mais qui ne relève pas de l'improvisation. Cet événement qui vient nous affecter n'est pas un acte d'improvisation, c'est ce qui nous tombe dessus.
Jacques Derrida, un véritable showman ?
Oui, c'est ce que je dis à un moment. Alors, c'est peut-être à prendre pas forcément en mauvaise part, parce que en réalité, pour moi, je l'ai surtout connu comme professeur. C'est un professeur très classique, très sérieux. Donc, je me souviens de cours sur Bergson, qui était tout ce qu'il y a de plus classique. Mais il avait aussi son séminaire. Et dans son séminaire, au fond, peu d'entre nous, élèves, étudiants normaliens, y participaient. C'était en effet plutôt ce qu'on trouvait être un show personnel de Derrida, là où il construisait, où il déconstruisait, c'est vraiment le cas de le dire, sur des textes, il mettait en œuvre sa méthode propre, qui était une méthode dans laquelle il fallait mettre en question ce qu'il y avait sous le texte, hors du texte, et d'une façon qui, au fond, personnellement, ne m'a jamais séduit, mais qui avait quelque chose comme une aura assez extraordinaire.
Tout à l'heure, nous entendions Louis Althusser, on n'est pas revenu sur l'homme et le professeur que ça a été, surtout sur son aura international, en fait.
Oui, on n'imagine pas à quel point, à l'époque, moi je suis rentré à l'école normale supérieure en 71, le meurtre de sa femme a mis fin non seulement, évidemment, à sa carrière publique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi, c'est comme si tout un pan de la philosophie s'était écroulé par cet acte meurtrier.
De la part de quelqu'un qui était malade, qui était maniaco-dépressif.
Bien sûr, moi, pendant les années où j'étais élève, je ne l'ai pas. Il n'y a pas une seule année où il ait pu faire un cours complet. Il alternait des phases très courtes d'exaltation à des phases de dépression absolument terribles où il était interné à Sainte-Anne. Et voilà, nous savions qu'il était extrêmement malade. Et c'est peut-être ça aussi qui expliquait l'étrangeté de cette personne qui était l'homme le plus doux de la terre, le plus aimable. Je me souviens d'être allé plusieurs fois frapper à sa porte.
Et vous avez connu Hélène, sa femme.
Bien sûr, Hélène et Louis Althusser vivaient dans les locaux de l'école normale supérieure. Il avait donc, on pouvait pratiquement sonner chez lui, je dirais pas jour et nuit, mais enfin à toute heure du jour. Il nous recevait extrêmement aimablement. Et lorsqu'on ouvrait ses livres, c'était autre chose, c'était un homme au contraire qui avait une pensée extrêmement tranchante, coupante, dogmatique, et l'homme au contraire était le plus doux et le plus nuancé du monde. C'était quelque chose d'insensé. Et je raconte dans le livre qu'en 1980, lorsqu'il y a eu ce meurtre, ça a été un choc incroyable sur le plan international. Le journal de 20 heures de la télévision brésilienne a ouvert sur cette nouvelle incroyable.
Parce que vous viviez au Brésil au moment où vous l'avez...
Parce que j'habitais au Brésil depuis quelques temps, a ouvert sur cette nouvelle incroyable. Imaginez-vous qu'au fin fond de l'Amazonie, on a entendu ouvrir les actualités sur le philosophe français internationalement connu a assassiné sa femme, etc. Et voilà, pour donner une idée de l'impact international, non seulement de cette nouvelle, mais de sa philosophie.
Je voudrais qu'on revienne, Francis Wolff, aussi sur la musique. La musique, c'est la passion, c'est l'émotion. Est-ce que le philosophe, puisque vous avez écrit sur la musique, tout comme vous avez d'ailleurs écrit sur l'amour, ils sont pas si nombreux que ça, les philosophes à avoir écrit sur l'amour, est-ce qu'il ne faut pas se méfier justement de ça, puisque la philosophie, c'est plutôt, disons, du côté de la raison?
En effet, vous avez tout à fait raison, mais que vaudrait la philosophie si elle n'était pas capable, par la raison, de rendre raison de l'expérience la plus intime que nous pouvons faire, y compris de la musique. Et justement, ce qui a été pour moi le défi, c'est d'essayer de rendre raison, si je puis dire. Mon livre s'appelle « Pourquoi la musique ?» Et quand je dis « Pourquoi la musique ?», je pose deux questions en réalité. Je pose la question « Pourquoi partout il y a des êtres humains, il y a de la musique ?» On ne connaît pas de culture, de société, de peuple sans musique. Et c'est un universel anthropologique. C'est déjà une question. Et puis, l'autre question qui est beaucoup plus intéressante, en tout cas énigmatique, c'est comment un art aussi abstrait, parce que c'est l'art le plus abstrait, peut avoir des effets aussi concrets, parce qu'il n'y a pas d'art qui a autant d'effets concrets. Vous voulez envoyer des hommes à la mort, il y a des musiques pour ça. Vous voulez appeler à la résistance, il y a des musiques pour ça. Pour le deuil, il y a des musiques pour ça. La musique nous fait chanter, nous fait danser, nous fait hurler parfois de bonheur, elle nous fait pleurer d'émotion, et ça, c'est une expérience limite, en effet, et un défi pour le philosophe.
Et la rationalité peut être une ligne de vie, et on peut quand même s'interroger sur l'amour et sur ses conséquences.
Bien sûr, il faut en effet vivre d'un côté, et vivre le maximum d'expérience dans une vie complète suppose l'expérience esthétique, y compris celle de la musique, mais ça peut être aussi celle de toutes les autres formes d'art. Et évidemment, l'expérience humaine parmi les plus élevées, c'est celle de l'amour.
Francis Wolff, je rappelle que vous êtes donc notre invité jusqu'à 21h pour un livre intitulé « Le monde à la première personne ». Il s'agit d'entretien avec André Comte-Sponville. Le philosophe Alain Badiou, professeur émérite à l'École normale supérieure, tout comme vous, Francis Wolff, nous parle du monde antique.
Dans le monde antique, qui est par excellence le monde des cités, des empires, des ethnies, des religions, des collectivités fières de leur fermeture, Saint Paul fait tout d'un coup entendre une parole stupéfiante qui est que, au regard de la nouvelle vérité, eh bien, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il y a une sorte d'humanité rassemblée et destinée, et que c'est à elle qu'on a affaire. Alors ça, je crois que c'est un geste extraordinaire. Je crois réellement que c'est un geste extraordinaire et que, à ce titre, il a quelque chose d'absolument fondateur. Je crois du reste qu'il éclaire un point qui, sans cela, demeure, à vrai dire, assez obscur, qui est tout simplement le succès du christianisme. On en revient toujours à cette question. Comment se fait-il que cette poignée de gens issus du milieu juif, dissidents et en même temps intérieurs au milieu juif, dans donc une province reculée de l'Empire romain, et créer un discours, une conviction qui en quelques siècles s'est emparé de l'Empire lui-même et finalement a fondé l'Occident tout entier et en un certain sens résonne encore aujourd'hui comme une dans sa dimension planétaire.
Le christianisme comme une utopie?
Oui, c'est un des thèmes avec lesquels je suis en accord avec Badiou, c'est-à-dire l'apologie qu'il fait de l'universel. Lui, il le fait à travers la lecture de Saint Paul, dans son petit livre sur Saint Paul, et sur la lecture qu'il fait du message paulinien. Je pense en effet que, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du cosmopolitisme, c'est que nous vivons une période où l'universalisme est critiqué de toutes parts. Il est critiqué à droite comme à gauche. Il est critiqué parce qu'il serait un oubli des nations, parce qu'il serait un oubli des racines d'un côté, ou parce qu'il serait un oubli des différences, de la différence homme-femme, ou parce qu'il serait au service du plus fort, au service du dominant. Je ne crois pas que ce soit le cas. D'abord, je ne crois pas que l'universalisme soit le contraire de l'uniforme. Au contraire, je dirais que l'universel est la condition même de la diversité. Il en est la condition parce que les différences ne peuvent exister, ne peuvent coexister que si elles sont garanties par un universel. Prenons l'exemple classique de la laïcité. La laïcité permet la coexistence de la diversité des croyances ou de la diversité des croyants et des non-croyants. La tolérance permet la diversité, la coexistence des opinions opposées. De telle sorte que on craint sous l'universel, on craint l'uniforme, on croit que ça va être l'oubli des différences, alors que, à mon sens, ça n'en est que la condition.
Et chez Aristote, par exemple, il y a déjà tous les éléments de l'universalisme.
Alors,
je dis ça parce que vous avez encore un livre que vous avez écrit, oui. Notre humanité d'Aristote aux neurosciences.
Oui, alors ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, Notre humanité d'Aristote aux neurosciences, c'est qu'à chaque grande époque, aussi bien philosophique que scientifique, il y a une certaine définition de l'humanité qui est là derrière et qui a ce qui a des conséquences à la fois sur le plan de la connaissance qui sont considérables, et il y a à chaque fois un revers de la médaille, si je puis dire, un revers éthique ou politique. Et dans le cas d'Aristote, bien entendu, le revers éthique et politique, malgré toute l'admiration que je peux avoir pour son œuvre philosophique, c'est évidemment qu'il justifie, avec sa manière de concevoir l'universel, la domination des femmes par les hommes. Et il en va ainsi à chaque époque, si je puis dire, que une grande révolution philosophique et scientifique, prend ensuite l'exemple de Descartes, s'accompagne là aussi toujours d'un revers éthique et politique. Et dans le cas de Descartes, eh bien, c'est...
Dont le portrait est dans votre bureau.
Dont le portrait est en effet a longtemps été dans mon bureau, vous avez tout à fait raison, et dont qui demeure une de mes références philosophiques essentielles, à une époque où il n'est pas très bien vu, vous savez, Descartes. Hein. Il est responsable, on le rend responsable de tout. La maltraitance des animaux, c'est sa faute. La crise climatique, c'est sa faute, sous prétexte qu'il aurait dit. Il a dit, en effet, qu'il voulait une science qui nous rende comme maîtres et possesseurs de la nature. Mais c'est parce qu'il voulait une médecine qui fut autre chose que celle des chapeaux pointus de son époque et des diaphoirus des médecins de Molière. Donc, il y a néanmoins, en effet, un revers de la position de Descartes que par ailleurs, aussi bien sur le plan philosophique que sur le plan scientifique, j'admire profondément, c'est que en faisant une coupure totale entre la conscience et le corps, eh bien, il a peut-être permis, en effet, que nous réduisions la nature à n'être qu'une matière exploitable à l'infini.
Alors, vous racontez dans ce livre d'entretien avec André Comte-Bourville, vous racontez votre rapport au judaïsme, Francis Wolff, dont vous dites qu'il a changé à un moment donné grâce à un oncle qui est venu, qui habitait aux États-Unis, donc juif américain décontracté,
tout à fait,
et qui vous a complètement bouleversé et changé. Parce que chez vous, vous n'aviez pas le droit de vous dire juif, vous n'aviez pas plus le droit de vous dire allemand.
Alors en effet, si vous avez lu le livre, vous savez que mon oncle a bouleversé notre rapport ou mon rapport au judaïsme, et que ma tante a bouleversé le l'adolescent que j'étais. J'avais 13 ans et je me souviens de quelques émois érotiques lorsqu'elle me prenait sur ses genoux.
C'est
Mais revenons à mon oncle, revenons au judaïsme en effet. Si vous voulez, en 1962, quand débarque cet oncle qui n'avait pas vu mon père depuis que la famille s'était dispersée en 1935, lorsque la Sarre, où il vivait, a été envahie suite au référendum la rattachant à l'Allemagne nazie, a été envahie par les hordes nazies, Ils ne s'étaient pas vus et donc il débarque, mais lui, en juif américain, décontracté, vivant son judaïsme, il tombe dans une famille qui, en effet, vivait sa judaïté d'une façon secrète et d'une façon qui devait à tout prix, être oubliée afin de gagner l'intégration par l'école.
C'était un désir d'assimilation. En fait,
voilà, c'était un désir d'assimilation, mais qui se refusait à reconnaître le passé et les traditions pour permettre aux enfants de réussir à l'école, etc. Eh bien, grâce à cet oncle, on a décidé que je ferais ma bar mitzvah. Je suis même rentré dans le judaïsme avec enthousiasme. J'en suis pas entièrement sorti, mais il y a eu quelqu'un qui a joué un rôle très important dans mon éducation. Je raconte un peu, c'est le rabbin Gourevitch, qui était le rabbin de Neuilly, qui était un homme très bon et qui était en même temps, qui a été pour moi un éducateur essentiel. Une des dernières choses que quand je l'ai revu quelques années plus tard, je lui ai dit que j'avais abandonné le judaïsme. Il m'a dit « Ah, mais toi, quand on a été juif comme toi, tu ne pourras jamais être complètement athée. » Et cette phrase m'a poursuivi longtemps et je me suis demandé qu'est-ce qui me reste aujourd'hui de mon non-athéisme ou de mon judaïsme. Et la seule réponse que je trouve, outre quelque chose comme la fidélité à une mémoire et un témoignage, le témoignage de la Shoah dans lesquelles a péri une grande partie de ma famille, en tout cas tous mes grands-parents, c'est ceci, je crois encore à quelque chose comme le salut de l'humanité et donc à quelque chose comme la venue de l'ère messianique.
Vous disiez tout à l'heure, Francis Wolff, que votre peu de goût pour les voir plus... Pour le nationalisme, est-ce que le sionisme est-ce que c'est pas devenu avec le temps une sorte de nationalisme?
Oui, c'est devenu un nationalisme. Si vous voulez, ce qui est tragique pour moi, l'histoire du sionisme est quelque chose comme l'illustration par excellence de la tragédie de l'idée de nation. C'est né comme un mouvement de libération nationale à la fin du 19e siècle. Le sionisme, c'était l'espoir pour des générations de diaspora de quelque chose comme une émancipation qui puisse échapper à l'antisémitisme. Et progressivement, ce rêve s'est transformé et désormais, le sionisme, en tout cas tel qu'il se développe en Israël, est devenu un nationalisme comme les autres, à certains égards pire que les autres, mais évidemment cela ne signifie pas qu'il faille vouloir quelque chose comme la fin de l'État d'Israël. C'est un acte qui a été fondateur de quelque chose comme une émancipation. Le problème, c'est que le nationalisme a souvent pris le dessus sur l'idée de libération nationale.
L'ONI sur France Inter, vous allez peut-être la découvrir avec un certain nombre d'auditeurs après Incandescente ou La Maison des Filles. Voici Comme la fin du monde, ou la certitude qu'il y a de la beauté dans la peur et la mélancolie.
Souffle. les belles, je fais le mort. Tu me regardes et moi je me demande si ton visage,
Martin.
Qu'on rappelle, il faut le rappeler, que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça n'oblige évidemment pas à penser que toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur, je n'en crois rien. Si tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, alors une civilisation qui proclame cette égalité et qui essaye de la respecter à peu près est évidemment supérieure, au moins de ce point de vue, à une civilisation qui ignore cette égalité, qui la refuse ou qui la viole systématiquement. Autrement dit, ne confondons pas le respect de tout être humain avec le refus de défendre telle ou telle valeur auxquelles nous sommes attachés. Et c'est spécialement important dans la situation douloureuse, difficile que nous connaissons, où certains, se réclamant notamment de l'islam, déclarent leur haine de l'Occident. Est-ce que ça serait devenir raciste que de prétendre défendre les valeurs qui sont celles de notre civilisation, mais qui sont celles aussi bien au-delà, de plus en plus, les valeurs de tous les démocrates, de tous les progressistes dans le monde? C'est pas seulement les valeurs judéo-chrétiennes, c'est aussi bien les valeurs de Gandhi, c'est aussi bien les valeurs de Nelson Mandela. Je n'essaye pas de défendre je ne sais quel Occident chrétien. J'essaye de défendre l'humanisme qui suppose le respect de tout être humain, et c'est justement ce respect de tout être humain qui m'interdit de penser que toutes les civilisations se valent, parce qu'en vérité, toutes les civilisations n'accordent pas le même respect à tout être humain. Et c'est pourquoi je suis relativiste et assurément pas nihiliste.
Vous aurez probablement reconnu la voix d'André Comte-Sponville. C'est pas vous qui n'allez pas la reconnaître, Francis Wolff. Est-ce qu'il vous arrive de vous, je sais pas ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, et est-ce qu'il vous arrive de vous bagarrer, mais fort avec lui?
Alors, fort non, mais, nous sommes parfois en désaccord. Nous sommes parfois en désaccord, par exemple, sur la notion de liberté que je défends et à laquelle il ne croit pas. Sur ce qu'il vient de dire, nous sommes à 90% d'accord, lui et moi. D'ailleurs,
oui, 10% alors.
Et il dit ici ou là que c'est en me lisant qu'il s'est réconcilié avec ce mot d'humanisme.
Il dit plus que ça. Il dit que vous êtes le plus grand philosophe vivant. Oui, ce à quoi vous lui rétorquez, non, c'est pas moi, c'est Habermas.
Non, je n'ai pas répondu ça, mais si vous voulez,
modo,
si vous permettez,
résume.
Si vous permettez, je ne sais pas si, je ne sais pas s'il faut être un bon ou un mauvais philosophe. En tout cas, il vaut mieux être un philosophe vivant qu'un philosophe mort, même très bon. En tout cas, c'est ce que je pense là de ce que vous venez de dire à son propos. Non. Dans ce qu'il vient de dire, je suis à peu près d'accord avec lui sur tous les points, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des Antigones partout, c'est-à-dire des gens qui, au nom de l'universel, s'insurgent contre ce qui nous paraît intolérable, inhumain, monstrueux, etc. Je ne dirais pas que c'est les valeurs européennes ou occidentales, car l'Occident s'est rendu coupable des pires crimes, que ce soit ceux de la colonisation, que ce soit ceux évidemment de l'extermination. Tout cela est possible partout. Je dis que l'universel peut être porté non pas par toute culture, par toute civilisation, mais par tout être humain, dans n'importe quelle culture et dans n'importe quelle civilisation. Et en effet, il cite des exemples avec lesquels je suis d'accord. Il y a un économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui est aussi un philosophe, qui a montré qu'il y a eu des défenseurs de ce que nous appelons l'humanisme universaliste dans l'Inde ancienne. Donc, je n'en conclus pas que toutes les cultures ne se valent pas, mais j'en conclus qu'il y a en effet, ce que je dirais, des cultures plus civilisées dans la mesure où elles supportent à l'intérieur d'elles-mêmes la possibilité de l'altérité.
Quels sont, Francis Wolff, les philosophes sur lesquels vous vous êtes le plus appuyé? Vous parliez de Descartes tout à l'heure, on l'aura compris. Il y en a probablement d'autres. Il y a aussi Paul Ricoeur, que vous appréciez énormément. Et d'ailleurs, Comte-Sponville semble un peu étonné. Il comprend pas pourquoi. Et puis, vous avez des opinions, quelquefois, qui peuvent paraître surprenantes, en tout cas pour le lecteur lambda dont je suis. Par exemple, Spinoza. Alors, il se trouve que la semaine dernière, nous avons consacré une émission entière à Spinoza avec quelqu'un que vous connaissez, qui est Maxime Revert, qui lui a consacré donc un livre sur Spinoza et son clan, et puis qui a aussi traduit l'éthique. Et vous dites de Spinoza que vous ne connaissez guère de philosophe plus sympathique, mais que son œuvre vous laisse insatisfait.
En effet, je ne connais pas de philosophe, de personne de philosophe pour lequel j'ai plus d'admiration. Ce philosophe solitaire travaillant à son œuvre demeurée posthume, l'éthique jusqu'à la fin de sa vie, en polissant des verres de lunettes à Amsterdam, excommunié de sa communauté juive. Bref, c'est l'homme qu'on aurait voulu chérir, en tout cas rencontrer. Mais je ne suis jamais rentré complètement dans son système, à une époque où aujourd'hui, je dirais presque la plupart de mes amis, de gens que j'estime, sont spinozistes. En effet, dans une époque où triomphe l'athéisme, il en est au fond un des représentants les plus cohérents. Il fait de la métaphysique tout en refusant toute transcendance. Il est contre des chimères que sont le libre arbitre, la responsabilité, le bien, le mal, etc.
Et ces démonstrations, il les fait un petit peu comme le fait un géomètre, donc
exactement.
Mais
tout cela me le rend extrêmement sympathique, mais je trouve que ça ne tient pas debout.
Et pourquoi?
Pourquoi ça ne tient pas en 40 secondes. Alors, en 40 secondes.
Vous avez bien résumé votre propre philosophie en 400 mots, parce que c'est ce que Comte Sponville vous a demandé. Alors,
bien
vous pouvez
sûr.
Bien le faire en 40 secondes, là, pour sur Spinoza.
Si vous voulez, le point de départ, c'est qu'il existe une seule substance qu'il appelle Dieu, qui est cause de soi, et dont nous ne serions au fond que les modes finis. Si vous voulez, je vais essayer d'être encore plus court. Comment un philosophe peut refuser l'idée de possible, puisque pour lui c'est des chimères, imaginer des choses possibles, alors qu'il dit que tout ce qui arrive est nécessaire. Mais si vous dites que quelque chose est nécessaire, c'est parce que vous croyez qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Vous ne pouvez pas à la fois dire que tout est nécessaire, qu'ils nous disent que ce qui arrive, arrive, c'est un fait. Mais dire que c'est nécessaire, c'est beaucoup plus. Et ça suppose un travail de l'imagination. C'est-à-dire, ça suppose qu'il n'aurait pas pu en être autrement. Et ça, déjà, je trouve que c'est une contradiction. Mais, écoutez, il est tellement sympathique qu'on lui réglera son compte un autre jour.
Francis Wolff, vous dites qu'il faut pouvoir philosopher le dos au mur, c'est-à-dire sans forcément s'appuyer sur des auteurs. C'est d'ailleurs, je crois, pour ça que vous aviez, à un moment donné, créé ce séminaire des lundis de la philosophie, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il faut oser philosopher.
Alors, je dis que ça doit aussi exister. Quand j'ai fondé ce séminaire en 2004, qui prenait la suite d'un séminaire que j'avais eu à Nanterre, mon idée, c'était que dans l'université, on fait des choses très très bonnes sur les auteurs. On explique très bien Aristote, Platon, Descartes, Kant, etc. Mais qu'il est extrêmement rare que mes collègues se livrent à un exercice de défendre des thèses avec des arguments et sans s'appuyer sur des auteurs. Or, je trouve que c'est l'exercice que nous demandons à nous-mêmes, à nos élèves, et c'est l'exercice philosophique par excellence. Donc, j'ai tenu à faire ce séminaire qui avait comme particularité, c'est qu'on y parlait de tout, à la seule condition qu'on annonce ces thèses et qu'on les défende uniquement avec des arguments sans s'appuyer sur des auteurs. Et ça, c'est l'exercice philosophique par excellence.
Parler de tout parce que la philosophie se doit d'être généraliste ?
La philosophie peut être généraliste, elle ne doit pas, moi je n'ai aucune raison de dire que la philosophie doit ceci ou doit être cela, je pense qu'il y a une infinité de manières légitimes et encore plus de manières illégitimes de philosopher. Moi j'ai philosophé comme un généraliste, pensant que tout ce dont les êtres humains pouvaient faire l'expérience, dans toute leur variété, toute leur richesse, pouvait être l'objet d'une interrogation rationnelle.
Y a-t-il encore un champ que vous aimeriez labourer là ? Qu'est-ce qui vous... Sur quoi aimeriez-vous travailler ?
Peut-être sur l'image. J'ai commencé à travailler un petit peu sur l'image. J'ai beaucoup donné à la musique. J'aimerais travailler sur l'image. Et puis un thème métaphysique que je caresse depuis quelques dizaines d'années. Et peut-être que j'aurai la force d'en venir à bout. J'aimerais bien... Voilà, décortiquer, analyser ce concept mystérieux qu'on appelle le temps.
Le temps qui est effectivement c'est une interrogation infinie.
Oui, et si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui on s'en remet trop vite et trop rapidement au point de vue physique, alors même que les physiciens sont en désaccord entre eux, alors que on peut aussi continuer de s'interroger sur ce que signifie le passé, le futur, la succession et autres indices du temps dans lequel nous vivons.
Mais le temps précisément, le temps qui en tout cas nous était imparti, touche à sa fin. Merci beaucoup Francis Wolff. Le Monde à la première personne, entretien avec André Comte-Sponville, c'est paru chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.